ça va pas se passer. Donc ça c'est mon fardeau cet après-midi. Et aussi demain, le dernier jour, en parlant d'Esdras et de Néhémie, que malheureusement nous n'allons pas vraiment aborder. Ces deux hommes, ces deux frères étaient très pratiques. Ils ne vivaient pas dans les rêves, dans les nuages, n'est-ce pas? ils étaient des hommes, le centre et le sens et la raison de l'univers, mais les deux pieds plantés fermement sur la terre, n'est-ce pas? Et comment allait-il annoncer au monde entier? Ils avaient tous les deux un horaire. Esdras, ce qui caractérise Esdras, le livre d'Esdras et la personne d'Esdras, ou le personnage d'Esdras, c'est que il y a un mot qui caractérise Esdras, et c'est le mot écrit. Écrit. C'était un scribe. Quelqu'un qui écrivait. Les scribes, n'est-ce pas, écrivaient. Ils copiaient. Je veux dire, ils copiaient les manuscrits, n'est-ce pas? Et donc, avec le stylo, avec un stylo, avec une plume, pendant ces jours, à l'époque, n'est-ce pas, à l'époque, il écrivait. Ça veut dire que c'était pas une personne, n'est-ce pas, seulement une personne d'inspiration, mais une personne qui a écrit ce que Dieu lui a dit. Et il a étudié méticuleusement, il a étudié et il a appliqué son cœur à étudier à la loi de Moïse. Donc Esdras, avec Esdras et avec Néhémie, il n'y a aucune nouvelle révélation que Dieu leur a donnée. Aucune, rien de ainsi dit l'Éternel, aucune prophétie, mais tout ce que Esdras a accompli, tout ce que Néhémie a accompli, était basé sur ce qui était déjà écrit. Ils sont revenus aux Écritures, à la forme écrite, la parole écrite. Et donc, dans notre vie chrétienne, ça veut dire que quand nous vivons notre vie chrétienne et que Dieu nous parle, Dieu nous touche, comment est-ce que nous répondons? Il faut quelque chose de concret. Il faut un horaire. Il faut des marches, des démarches précises pour accomplir ce que Dieu veut que nous fassions. Donc, quelqu'un qui dit « Ah, je vais prêcher l'Évangile !» C'est un bon désir. Mais la question c'est comment? Quand? Comment? Avec qui? Ah. Mais la plus importante c'est quand? Je vais prêcher l'Évangile! Ah oui. Ok, quand est-ce que tu vas commencer? Un jour. Ok, quel jour? Voyez, sans planification, la vie chrétienne ne fonctionne pas. La vie chrétienne, c'est dans les nuages. Ah. Et voilà ce qui arrive souvent pendant des conférences. Pendant des conférences, on est inspiré, on est ranimé, on est excité, n'est-ce pas? On crie, on pleure, on danse, toutes les choses qu'il faut faire, n'est-ce pas? Mais après la conférence, on rentre chez soi et on vit exactement de la même façon qu'avant. En attendant la prochaine, la conférence suivante, pour être inspiré, hein, pour être renouvelé, pour être ranimé. Encore une fois, oui, il faut prêcher l'évangile. Bon. Vous voyez, un bon désir est un bon désir. Mais un bon désir ne va jamais satisfaire Dieu, ne va jamais accomplir. Hein, le désir, le dessein de Dieu. Donc, quand Seigneur Jésus, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus, je vais vous lire le verset, pardon, oui, Hébreu, Hébreu, chapitre 10, okay. Chapitre 10, verset 9, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Hein? Voici, je viens pour faire ta volonté. Donc le Seigneur Jésus, il est venu sur la terre, pas seulement pour vivre la vie d'un homme, mais avec un but, avec un objectif et avec un horaire. Si vous voyez, si vous lisez les évangiles, vous verrez que son horaire était plein, était rempli du jour jusqu'au soir. C'est vrai, il avait, n'est-ce pas, il avait des rendez-vous avec des personnes. Il avait un rendez-vous avec la femme, avec la Samaritaine, à midi. Donc il devait être là, il savait exactement où il allait, à quelle heure il fallait être là, même exactement quand il devait mourir, selon les prophéties. S'il était une heure en retard ou une heure en avance, tout aurait été, n'est-ce pas, en désordre. Le Seigneur n'a été jamais en retard ni en avance. Il était toujours à l'heure parce qu'il avait son horaire planifié, n'est-ce pas? Alors, donc, même quand il a nourri, n'est-ce pas, il y a certaines choses qu'il a faites, il nous semble qu'il les a faites, n'est-ce pas, sur le moment. Mais je lui dis, tout était planifié. Ah, même le choix, même quand il a choisi ses apôtres, il a passé toute la nuit en prière. Ça veut dire qu'il a considéré chacun, même Judas. Il a choisi Judas, n'est-ce pas? Mais il a considéré en détail chaque individu. Et éventuellement, n'est-ce pas, selon la volonté du Père, il en a choisi 12. Le Seigneur n'a rien fait sans considération, n'est-ce pas, sans bien examiner et réfléchir. Et ça, c'est la vie chrétienne. La vie chrétienne, hein, n'est pas une vie dans l'air, c'est pas une vie d'inspiration, que je vis, je fais quelque chose quand je veux, et quand je ne veux pas, je ne le fais pas. Demain matin, je me réveille à 4 heures, n'est-ce pas, pour la prière. Mais le lendemain, je me réveille tard. Vous voyez, c'est que Pourquoi dans notre vie est-ce que tant de choses ne durent pas? Tant de résolutions, de bonnes résolutions ne durent pas. Nous essayons quelque chose et nous laissons tomber. Nous commençons, nous nous arrêtons. Nous commençons à lire la Bible. Combien de fois avons-nous lu la Genèse? Peut-être la Genèse, c'est le livre le plus lu. Parce que nous commençons la Genèse. Et puis Exode peut-être. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires intéressantes. On arrive à Lévitique. On a, oui, ça c'est bien. Oui, c'est bien de sauter. Voilà, oui, j'aime ça. Mais souvent, on s'arrête. On s'arrête parce qu'on ne veut pas lire Lévitique. Il y a trop de holocauste. C'est ennuyant. Hein. Et c'est la même chose. Ça se répète. On s'arrête. Et on s'arrête même de lire la Bible, n'est-ce pas? Et puis, à la prochaine conférence, on est inspiré, il faut lire la Bible, n'est-ce pas assez? Et puis, on retourne à la Genèse. Donc, au moins, on lit la Genèse. C'est bien, n'est-ce pas? Ça, c'est bien. On connaît bien la Genèse. Mais les résolutions, les bonnes résolutions, les bons désirs peuvent nous emporter jusqu'à un certain point. Mais après ça, si nous voulons continuer, nous ne pouvons plus compter sur notre bon désir. Il faut quelque chose de concret. Même un journal, même un calendrier. Bon, sur l'internet, bon, j'essaie, j'ai de pratiquer, de planifier ma journée du matin jusqu'au soir, parce que je sais que si je ne planifie pas ma journée, je vais gaspiller la plupart de mon temps. Oui, et ça c'est. Je ne veux pas le gaspiller, mais je vais finir par gaspiller mon temps. Surtout ceux qui, par exemple, ceux qui, quand vous servez, quand on sert, quand vous travaillez à une entreprise, on peut dire que votre journée est déjà planifiée, n'est-ce pas? Et ça, c'est votre salut. C'est votre salut. Ceux qui travaillent, ceux qui ont un travail, n'est-ce pas, un peu régulier, votre salut, c'est bien ça. C'est que du matin, vous savez à quelle heure vous commencez, à quelle heure vous vous arrêtez, ce que vous faites pendant la journée. Vous avez un patron à qui vous êtes, vous rendez compte, n'est-ce pas? Si vous ne faites pas le travail, vous devez répondre au patron. Mais dans la vie chrétienne, oui, c'est Dieu, mais on se sent passer facilement, n'est-ce pas? Oui. Non, où est Dieu? Dieu est... N'est-ce pas? Nous avons... Vivre devant Dieu est plus difficile que vivre devant les hommes. J'ai un patron qui va me renvoyer si je ne fais pas mon travail. Mais, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu va me renvoyer? Non, il va me permettre. Si je gaspille une journée, n'est-ce pas? Le ciel ne va pas s'ouvrir pour, n'est-ce pas, un coup de foudre ne va pas me frapper. Je peux me débrouiller toujours en disant demain ou la semaine prochaine. Demain, je vais commencer. Demain sera un nouveau début. Et demain arrive et c'est la même chose. Et nous pouvons vivre notre vie chrétienne comme cela. Sans rien accomplir. Donc, si vous voulez à vous occuper des gens, d'une personne, d'un jeune ou d'une personne, d'un collègue au travail, c'est bien, toujours bien, d'avoir un plan, un schéma, un plan. Comment est-ce que vous allez vous occuper de lui? Oui, vous commencez par la prière, n'est-ce pas? Le Seigneur, vous cherchez le Seigneur. Et peut-être que le Seigneur va vous parler de lui téléphoner, de mettre à part quelques temps, n'est-ce pas, pour le voir. Ah, c'est bien de décrire ça. C'est-à-dire que à telle ou telle heure, je vais téléphoner. Parce que si vous n'écrivez pas, si vous ne planifiez pas ça, vous allez attendre une semaine, deux semaines. Et même le fardeau pour cette personne va diminuer. Oh, vous ne savez pas comment nos fardeaux diminuent. Nous avons un fardeau aujourd'hui, mais après-demain, ce fardeau, n'est-ce pas, va dissiper. Alors, dès qu'il y a un fardeau, dès que le Seigneur nous parle, c'est bien de répondre. C'est bien de, au moins, d'écrire. N'est-ce pas? Voilà. Donc, je suis responsable. Quand j'écris quelque chose, je suis responsable. N'est-ce pas? Alors, voilà. Beaucoup, n'est-ce pas? Beaucoup de notes. Beaucoup de choses que le Seigneur, dont le Seigneur m'a touché, j'essaie de décrire. Quand je lis la Bible, j'essaie d'écrire ce que le Seigneur m'a inspiré. Comme ça, je ne vais pas oublier. Et vous voulez voir quelqu'un, écrivez-le. Donc, même un calendrier ou quelque chose comme ça, pour vous rappeler que voilà, il y a tel ou tel individu que, n'est-ce pas, vous devez contacter. Et après le contact, vous contactez, vous l'appelez, il dit, ah, je ne suis pas disponible, je suis occupé. Est-ce que tu peux me rappeler un autre plus tard? À ce moment-là, encore une fois, vous pouvez écrire, noter, n'est-ce pas? Faites comme un journal, n'est-ce pas, de votre tentative. Appelez quelqu'un, n'est-ce pas, tel ou tel jour. Et le prochain appel, parce que vous allez attendre peut-être quelque temps, n'est-ce pas? Peut-être quelques jours. Prochain appel, tel ou tel jour. Autrement, vous allez oublier. Surtout quand quelqu'un ne s'intéresse pas, il n'est pas tellement disponible, vous allez facilement l'oublier. Donc, vous écrivez. Je vais l'appeler dans deux ou trois jours. Et puis il vous répond, ok, voilà, on a, d'accord, viens me voir tel ou tel jour, à tel ou tel endroit, n'est-ce pas, à telle ou telle heure, écrivez, toujours. Ça c'est, peut-être que vous vous demandez, ah, je peux toujours me souvenir de ça. Oui, mais c'est la pratique. La pratique de décrire quelque chose, ça va renforcer votre fardeau. Croyez-moi, si vous n'êtes pas écrivain, n'est-ce pas, si vous n'aimez pas écrire les choses, je sais que c'est difficile. Et quand je dis écrire, ça peut être même, n'est-ce pas, sur le votre ordinateur ou à votre iPad, voilà, n'est-ce pas, le portable, quoi que ce soit, c'est quelque chose d'enregistré. Pour renforcer, pour que vous soyez responsable, n'est-ce pas? Il y a quelque chose que je dois faire. Et voilà quand je dois le faire. Et comment je dois le faire. Et même après avoir vu, après le rendez-vous avec une sœur ou un frère ou un nouveau, quelqu'un qui n'est pas sauvé, qu'est-ce qui s'est passé, n'est-ce pas? C'est bien, si vous pouvez, de faire un petit résumé du résultat de, n'est-ce pas, la prédication de l'évangile. Ah, parler avec quelqu'un, n'est-ce pas, telle ou telle personne, il était un peu ouvert, n'est-ce pas, mais pas encore prêt à accepter le Seigneur. N'est-ce pas? Et peut-être brièvement ce que vous avez partagé avec lui. Comme ça, ça peut vous diriger dans le prochain contact. Vous savez, n'est-ce pas, ce que vous avez fait et vous pouvez prier le Seigneur, encore chercher le Seigneur, ce qu'il faut faire pendant la deuxième visite. Vous voyez, ça c'est du travail, ça c'est un peu la vie d'Esdras et la vie de Néhémie. Ces frères-là, ils étaient des frères qui, ils étaient, c'était des hommes d'affaires, on peut dire, n'est-ce pas? Tous les deux étaient des hommes d'affaires du Seigneur, n'est-ce pas? Un homme d'affaires, il fait du commerce pour le Seigneur. Et quand vous faites du commerce, vous êtes redevable, n'est-ce pas, au patron. Comment vous avez géré votre temps? Comment vous avez géré l'argent? Il faut donner un compte rendu de chaque sou, n'est-ce pas, de ce qui vous a été donné. Et donc, avec nous aussi, le Seigneur nous a confié quelque chose. Il nous a confié des personnes, l'Église même, n'est-ce pas, pour que nous puissions les soigner. Il nous a confié son trésor. Comment est-ce que nous gérons notre temps? Comment est-ce que nous gérons nos ressources? Comment est-ce que nous gérons notre argent? Hein? Tout, c'est bien de donner un compte rendu d'eux. N'est-ce pas? Détaillé ou pas détaillé, ça, mais pour moi, c'est bien de commencer, n'est-ce pas? Même de commencer d'écrire quelque chose, ce que je vais faire, comment je vais le faire. Donc même pour les jeunes, n'est-ce pas, la communion que nous avons eue ce matin, c'était une bonne communion, mais je sais que comment ces communions se déroulent, n'est-ce pas, je connais un peu, parce que j'ai été là et j'ai expérimenté la même chose. Après la communion, je dis, ah mais c'est bien d'inviter quelques jeunes chez moi. Je vais parler avec ma femme. Ah, mais je rentre chez moi et il y a beaucoup d'autres choses qui m'occupent, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'autres fardeaux, de soucis, de responsabilités. Une semaine passe, deux semaines passent, trois semaines passent, et je n'ai rien fait, n'est-ce pas? Mais c'était toujours une bonne idée, n'est-ce pas? Alors, j'ai besoin, n'est-ce pas, d'écrire, j'ai besoin de noter, j'ai besoin de, si je suis sérieux, je vais faire quelque chose. Et je vais, n'est-ce pas, je vais me tenir responsable. Vous voyez? Alors, si j'échoue, au moins, je saurai, en lisant mon journal, ah, je ne l'ai pas fait. Donc, je me repens, je me relève, et je, n'est-ce pas, je compose le numéro pour appeler. Mais si je n'ai rien écrit, je peux passer des jours, des semaines, sans savoir, n'est-ce pas? Alors, ça, c'est pour nous. C'est pas pour d'autres frères, pas... non, c'est pour que nous soyons redevables à nous-mêmes. Oui, au Seigneur, mais surtout à nous-mêmes. N'est-ce pas? De nous, quoi? De nous limiter, de nous enfermer dans, n'est-ce pas, certaines limites où nous savons, ah, je n'ai pas appelé, ah, je n'ai pas rendu visite à tel ou tel frère, donc j'ai besoin de le faire. Ah. Néhémie, ok, quand Néhémie, quand on lui a dit que la ville de Jérusalem était en ruine, Néhémie était dévasté, bouleversé. N'est-ce pas? Et il ne pouvait pas se réjouir. Alors le roi lui a demandé, pourquoi est-ce que toi tu es tellement triste? Pourquoi est-ce que ton visage est, n'est-ce pas, tu as mauvaise mine? Et Néhémie a expliqué. Et puis le roi lui a demandé, ok, combien de temps est-ce que tu veux? Combien de temps est-ce que tu vas être absent? Voyez, Néhémie devait répondre, devait lui dire combien de temps. Il voulait rentrer à Jérusalem, n'est-ce pas, s'absenter de ses responsabilités en Susa, la capitale de la Perse. Il fallait donner une explication, une bonne raison. Combien de temps vas-tu t'absenter? Vous voyez? Donc, nous aussi, quand nous voulons servir le Seigneur, nous devons savoir, n'est-ce pas, avoir une idée. Seigneur, hein, quel est mon horaire? Quel est mon plan? Comment est-ce que je vais gérer cet individu? Comment est-ce que je vais soigner ce frère? Comment est-ce que je vais m'occuper de ce frère, de cette sœur? Ce n'est pas par hasard. Hein? Ah, je frappe. Ah, je l'ai trouvé. Oui, je frappe comme ça et, n'est-ce pas, je frappe dans l'air. Non. Paul a dit, quand je cours, n'est-ce pas, quand je cours la course chrétienne, c'est pas, je ne bats pas l'air, n'est-ce pas, en vain. Non, j'ai un objectif. J'ai un but. Je cours pour gagner quelque chose. Donc, quand je sers pour, n'est-ce pas, pour que quelque chose soit accompli. Oui, j'ai besoin du Seigneur, et nous avons parlé de cela, n'est-ce pas? Je ne sers pas en moi-même, je sers, n'est-ce pas? C'est le Seigneur qui œuvre en moi, c'est le Seigneur qui me touche. Oui, absolument. Mais sans notre collaboration, sans notre responsabilité, n'est-ce pas, à la fin de l'année, nous allons trouver, n'est-ce pas, que nous n'avons pas fait ce que nous aurions dû faire. Voyez, le temps passe vite. Le temps passe vite. Avant que nous le sachions, ce sera la fin décembre. Ou la fin de la fin de juillet, n'est-ce pas, la moitié de l'année, c'est déjà, n'est-ce pas, nous sommes déjà en mars. Voilà. Vous voyez, le temps passe vite. Alors, il faut racheter le temps. Donc, Esdras était un frère qui... Il savait. Ok, nous allons lire des versets. Ok. Esdras, chapitre 7. Ok. Chapitre 7, versets 8, 9 et 10. Ah non, on va dire verset 6. Verset 6, verset 8, 9 et 10. Esdras, chapitre 7, verset 6, 8, 9 et 10. Oui, 6, verset 6.
Esdras, monta de Babylone, il était un scribe placé dans la loi de Moïse, d'après le nom de l'Éternel, le Dieu du monde. Et le roi lui accorda toute sa richesse, selon que la main de l'Éternel son Dieu était sur lui.
Amen. 8.
Esdras 8. 7. Verset 8. Esdras arriva à Jérusalem au cinquième mois de la septième année du roi.
9.
9. Il était parti de Babylone le premier jour du premier mois et il arriva à Jérusalem le premier jour du cinquième mois. La bonne main de ton Dieu étant sur lui.
Amen. Et 10.
10.
En effet, un temps avait appelé son cœur à étudier et mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner sa perfection et l'aimer en Israël.
Amen.
Amen. Donc, Esdras, dans Esdras et Néhémie, souvent, la date, les dates sont mentionnées. Pourquoi? C'est un détail qui est un peu négligé. On n'a pas besoin des dates. Il s'agit de tout simplement de savoir que Esdras est arrivé, il est parti, il est arrivé, n'est-ce pas? Voilà, ça suffit. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de savoir qu'il est parti le premier jour, n'est-ce pas, et qu'il est arrivé le premier jour du quoi? Du premier mois, et qu'il est arrivé le premier jour du cinquième mois. Ça, ce sont des détails un peu, n'est-ce pas, inutiles. Non, très très utiles. Esdras a passé 5 mois à voyager. Ça veut dire qu'il est parti un certain jour. Il est arrivé un certain jour. Il a fixé, il a planifié son horaire pour qu'il quitte la Babylone. Il devait planifier son départ pour qu'il arrive à Jérusalem. Ça, bien sûr, c'était un peu plus problématique parce que le voyage était dur. Il y avait des bandits, il y avait des obstacles à franchir. Alors, il ne pouvait pas envisager son arrivée exacte. Mais au moins, son départ, il pouvait le prévoir, le planifier. N'est-ce pas? Et, ça dit aussi que, verset 10, Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Donc il savait ce qu'il devait faire. Il n'est pas venu à Jérusalem comme ci, comme ça, n'est-ce pas, en flottant. Ah, je vais voir comment le Seigneur va me pousser. ah, peut-être qu'il veut que moi j'aille ici ou que j'aille là-bas, je vais. Non. Dieu ne peut jamais se servir de quelqu'un comme ça, avec ce caractère, n'est-ce pas, qui n'est pas ferme, qui n'est pas solide. Seigneur, je suis ici pour accomplir ta volonté, n'est-ce pas? Ce que tu m'as parlé, ce que tu m'as montré, je vais me lever, je vais me consacrer à toi et je vais, n'est-ce pas, je ne vais pas attendre. Parce que je sais que quand j'attends, ah, je vais perdre ce que tu m'as donné. Alors, le temps, c'est maintenant. Le temps d'agir, c'est maintenant. Alors, je me lève et, n'est-ce pas, avec toi et avec l'aide des autres frères et sœurs, je planifie mon temps. Comment je vais exécuter ce que toi, tu m'as confié. Ah. Alors, si, et je parle ici, si vous devez, vous voulez servir le Seigneur, ah, ça c'est une caractéristique essentielle. Ah. Quel est votre projet? Quel est votre plan? Comment? N'est-ce pas? Ah! Notre confiance est dans le Seigneur. Pardon, non, pas dans notre plan. Oui, notre confiance est dans le Seigneur. Mais sans un plan, le Seigneur aura du mal à œuvrer. Le Seigneur œuvre très très précisément. Il œuvre à travers l'humanité. Sans plan, je m'excuse, hein, et c'est éventuellement, hein, vous aurez besoin d'un plan. Comment nous allons gagner les jeunes? Comment nous allons, n'est-ce pas, soigner les jeunes? Qui va inviter les jeunes? Quand? Quel jour? Tout ça, vous devez réfléchir. Autrement, 6 mois plus tard, les jeunes seront, n'est-ce pas, ce sera la même situation. Alors, ça c'est un peu mon fardeau. Je parle un peu sévèrement, n'est-ce pas, ou un peu fort, parce que je sais que moi, j'ai tendance, toujours tendance à gaspiller mon temps. J'ai de bonnes intentions, j'ai de bonnes résolutions, mais je laisse tomber facilement, n'est-ce pas? Ah, les jeunes ne sont pas ouverts. Ils ne sont pas ouverts. Ah, j'ai essayé une fois. Ah, ils ne changent pas. Alors, je laisse tomber. Parce que je n'ai pas de plan. Je n'ai pas d'horaire. Ah. Mais si, pendant 6 mois, vous planifiez, n'est-ce pas? Voilà. Les étapes que vous allez faire pour soigner, vous verrez ce qui va se passer. Le Seigneur va faire quelque chose. Ah. Et ça, c'est... Bon, vous avez entendu parler de... Le pourcentage, c'est-à-dire que si vous faites quelque chose pendant une certaine période de temps, un certain nombre de fois, vous aurez des résultats. les statistiques, n'est-ce pas? Si vous allez, par exemple, si vous allez porte à porte, par exemple, pour annoncer l'évangile à tout le monde, n'est-ce pas? Qu'allons-nous faire? Annonçons-le à tout le monde. Bon, c'est bien. Alors, donc, comment le faire? Si vous allez, par exemple, porte à porte, et si vous frappez sur 100 portes, il y aura quelques portes qui vous seront ouvertes. C'est le principe de, n'est-ce pas, des statistiques même. Ce n'est même pas, oui, c'est le Seigneur qui œuvre, mais ce n'est même pas le Seigneur, on peut dire, c'est juste par votre persévérance, votre, n'est-ce pas, endurance, vous prêchez l'évangile. Il y aura des âmes qui seront sauvées. Vous voyez, ça c'est le principe du semeur. Le semeur sème. Il sème, il sème, il sème. Dieu donne la pluie. Mais on n'a aucun contrôle, n'est-ce pas, de la pluie. Mais notre responsabilité, c'est de semer. On sème, on sème, on sème. Et le semeur, n'est-ce pas, qui a semé sur la semence, on peut dire que trois quarts de sa semence a échoué, mais un quart a porté du fruit. Et ça, c'est le semeur. Le semeur, c'est le Seigneur. Le Seigneur a échoué. Ah, il a semé. Parce que le semeur, c'est le Seigneur Jésus. Il a semé. Et regardez, le terrain. N'est-ce pas? Le terrain endurci. Ah, le terrain pierreux. Pierreux. Le terrain épineux. Et finalement, le bon terrain. Un petit terrain bon. Le Seigneur, le succès du Seigneur est 1 sur 4. Bon, on peut dire, n'est-ce pas? Statistiquement, économiquement, 1 sur 4. Ben, voilà, c'est les mathématiques, n'est-ce pas? Bon. Alors, si nous semons, hein, nous semons, le Seigneur va bénir. Il y aura du fruit. Vous voyez? Ça, c'est un peu mon fardeau cet après-midi. Voilà, je ne vous parle pas, n'est-ce pas, d'autres choses, mais c'est... Autrement, toutes les choses spirituelles qui nous impressionnent vont disparaître. Sans, n'est-ce pas, que nous les réalisons dans notre vie pratique, sans que nous les concrétisions. Ça veut dire que quand le Seigneur me touche de lire la Bible, je dois faire un horaire. Je dois faire un plan. Seigneur, combien de temps est-ce que je vais lire la Bible? Chaque jour. Même à quelle heure? C'est bien de pratiquer ça. À quelle heure est-ce que je commence? À quelle heure est-ce que je m'arrête? Pratiquez cela et vous allez voir comment vous allez, combien de fois vous lirez la Bible. Est-ce que vous allez lire la Bible tous les jours? Non, non, non. Nous allons échouer. Mais quelqu'un qui ne se donne pas, n'est-ce pas, qui ne se limite pas, qui ne s'exerce pas comme ça, aura du mal, le Seigneur aura du mal à l'utiliser. La discipline, quelqu'un qui n'est pas discipliné, hein, même quand il lit la parole, et demain on va en parler, on va parler de ça beaucoup plus. Quand il lit la parole, hein, ça va être difficile de se limiter à la parole. et il y aura beaucoup d'autres choses qui vont entrer. Parce que sa personne n'est pas disciplinée. Donc il permet à d'autres choses. Quand il lit la Bible, hein, la Bible dit quelque chose, mais lui il pense à autre chose. Et donc quand il lit la Bible, c'est comme s'il lisait quelque chose d'autre pour convenir à sa façon de penser. Donc la discipline, être discipliné, nous limite. Même nous limite à ce que le Seigneur dit. Seigneur, qu'est-ce que tu dis dans ta parole? Voilà Esdras. Il s'est donné, il a appliqué son cœur à étudier la loi de Moïse. Oui, ce qui a déjà été écrit. Donc il n'a pas cherché de nouvelles révélations. Ah, Seigneur, donne-moi une nouvelle révélation. Montre-moi quelque chose de plus élevé. Mais il est retourné à l'origine, ce qui est déjà là. N'est-ce pas? Et il a étudié. Et apparemment, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui ont fait ça. Vous voyez, tout le monde, beaucoup d'autres, se vantaient. Ah, nous avons le temple, nous avons la loi de Moïse. Ah oui, quand est-ce que vous l'avez lu? Oh, il y a peut-être 5 ans. Où est la loi? Ben, je ne la trouve. Ah, il faut la chercher. Mais c'est ça. Pendant le temps de Josias, n'est-ce pas? On avait perdu la loi. Finalement, c'est quoi? Ilkija, n'est-ce pas, le scribe qui l'a trouvé. Nous avons trouvé la loi. La loi avait été enterrée quelque part, oubliée, négligée. Mais ils avaient la loi. Et c'était des sacrificateurs, n'est-ce pas? Donc, et ils servaient. Il servait dans le temple, joyeusement, n'est-ce pas? Mais ils avaient perdu la loi. Ça veut dire que ils ne lisaient pas la Bible, mais ils servaient l'Éternel. Vous voyez? Donc, ça veut dire que nous pouvons servir, nous pouvons vivre dans la vie de l'Église, mais être discipliné, c'est quelque chose d'autre. C'est... Et donc, je ne me permets pas certaines choses, parce que je suis au régime. Comme un athlète, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est au régime, il ne peut pas manger certaines choses. Il ne peut pas boire certaines choses. Il ne peut pas faire certaines choses, parce qu'il court, il se prépare pour une course, pour un événement, n'est-ce pas? Et donc, la manière dont je vis ma vie, hein, comment je vis ma vie, comment je m'exerce, tout ça, si nous sommes sérieux avec le Seigneur, si nous voulons avancer, nous avons besoin de cette sorte de vie. Une vie disciplinée, une vie stricte envers nous, n'est-ce pas? Pas envers les autres, mais envers nous, envers moi. Moi, je dois m'exercer. Ah. Alors si moi je dis aux autres de lire la Bible, moi je dois la lire plus, même 2 fois plus. C'est-à-dire, je n'ose pas dire aux autres quoi faire si moi je ne le fais pas déjà. Vous voyez? Esdras. C'était quelqu'un qui est... Il a décidé de vivre de cette manière. Il n'a pas imposé son régime à qui que ce soit. Il n'a pas insisté, mais lui, il a vécu. Lui, il est venu, n'est-ce pas, à Jérusalem avec cet objectif, avec son fardeau. Et quand il est arrivé à Jérusalem, c'était évident que sa personne était telle, n'est-ce pas, qu'on l'a reconnu, hein, qu'il était, c'était lui, n'est-ce pas, qui allait enseigner le peuple. Esdras n'avait pas besoin de se présenter, comme ça. Sa personne reflétait déjà son caractère, n'est-ce pas, son caractère de discipline était déjà exprimé. Donc, quand vous êtes jeune, c'est toujours bien d'écrire, et je sais que vous, c'est très bien, vous faites des notes, n'est-ce pas? Quand le Seigneur nous parle, écrivez, n'est-ce pas? Quelque chose. Comme ça, même plus tard, vous revenez et vous pouvez lire, ah, le Seigneur m'a touché concernant ça, n'est-ce pas? Concernant ça. Même avant de témoigner, quand vous, si par exemple vous donnez un message ou vous préparez quelque chose à présenter aux frères et aux sœurs à l'église, c'est bien d'écrire. Comme ça, vous savez, n'est-ce pas, vous êtes préparé et vous savez, vous vous limitez à ce que le Seigneur vous a dit, n'est-ce pas? Et vous n'allez pas errer ici et là. Mais votre fardeau est clair, votre fardeau est direct, votre fardeau est, n'est-ce pas, est limité. Là, ce que vous avez préparé va vous limiter à libérer votre fardeau. Donc, c'est toujours un bon exercice de préparer quelque chose à l'écrit avant de venir. N'est-ce pas? La Bible est la parole de Dieu écrite, n'est-ce pas? Tout a été écrit. Dieu, n'est-ce pas, s'est limité aux Écritures. Et on peut dire que les dernières lettres dans la Bible, les dernières épîtres, ont été écrites. Enfin, les sept lettres aux sept églises dans Apocalypse, écrites. Voyez, ça c'est le principe du Seigneur. Le Seigneur, hein, il a parlé. Mais tout ce qu'il a parlé, tout ce qu'il a dit, a été écrit. Maintenant, quand nous lisons la parole écrite, le Seigneur nous parle encore. Il nous touche. Alors, nous pouvons répondre en écrivant quelque chose. Non, ça ne devient pas la Bible. Non, non, non. Mais c'est notre réponse à la parole écrite. N'est-ce pas? Et c'est ça qui va nous nourrir et qui va nourrir les autres. Voilà un peu mon fardeau. Après-midi, c'est pratique. écrivez autant que possible, planifiez notre jour, planifions notre jour, notre journée, notre exercice de soigner, de même de l'évangile. Vous allez prêcher l'évangile dans 2 semaines, n'est-ce pas? Vous allez sortir. C'est un très bon exercice, opportunité d'enregistrer, n'est-ce pas? Combien de gens vous avez contactés, n'est-ce pas? Combien, si moi, n'est-ce pas, je vais avec un autre frère, combien de gens nous avons contactés? Leur nom, si possible, si vous avez leur nom, leur adresse, leur numéro de téléphone et leur réponse, un peu, la réponse, n'est-ce pas? Comme ça, et même ça va vous diriger dans vos prières. Et puis, quand vous les appelez, vous savez un peu, n'est-ce pas, quelle sera votre prochaine étape. N'est-ce pas? Autrement, ça va être. Il y aura beaucoup, beaucoup de gens que nous aurons contactés, mais difficile à savoir où ils sont. Cette sœur à Montréal qui a cette liste, une longue liste de journal des personnes, ça nous expose. Parce qu'on se demande où sont tous ces gens-là? Où sont-ils? Mais au moins, on les connaît. On sait. Ah, tel ou tel. Ah oui, je lui ai parlé, je l'ai vu il y a 5 ans. Et en priant le Seigneur, on peut même le contacter. Pourquoi pas? C'est-à-dire que le Seigneur n'oublie jamais personne. N'est-ce pas? Donc, même après 5 ans, son nom est toujours là. Si quelqu'un voit son nom et le contacte, on ne sait jamais ce qui va se passer. Hein? Après 5 ans. Ah, frère, ça fait 5 ans que je ne t'ai pas parlé. Ah oui, c'est vrai, merci. Et il est ouvert. Après 5 ans, n'est-ce pas? On a oublié, mais on a vu son nom. Ça, c'est le Seigneur, n'est-ce pas? Le Seigneur œuvre, mais il œuvre à travers l'humanité. Comment est-ce que cette personne qui a été contactée il y a 5 ans, comment est-ce qu'il va connaître le Seigneur? Il faut qu'un frère voit son nom 5 ans plus tard pour le contacter. Et voilà. C'est merveilleux. Le Seigneur œuvre merveilleusement. Mais c'est à travers un travail, une œuvre méticuleuse, pas toujours jolie, pas toujours glorieuse. Il n'y a rien de glorieux d'avoir oublié quelqu'un pendant 5 ans et puis de voir son nom là. Mais, n'est-ce pas, on a été exposé et on a appelé la personne et il a répondu. Waouh! C'est le Seigneur, n'est-ce pas? Et il y a beaucoup de témoignages comme ça. Ah. Quelqu'un, n'est-ce pas, on l'a oublié. Ah, et finalement, oh oui, 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 je m'appelle, ah oui, voilà, on a vu son nom. Et le voilà, maintenant. Le Seigneur l'a gagné. Amen.
Bon, ça, c'est un peu le...
Je m'excuse si c'est un fardeau lourd, un peu. Mais c'est vraiment ce qu'on appelle en anglais. En français, c'est comme les. les écrous et les vis. Quand vous construisez une maison, quelque chose, n'est-ce pas, sans les écrous et les vis, ça va pas se tenir, n'est-ce pas? C'est ça. C'est... Vous êtes tous sur beaucoup d'entre vous êtes sur Facebook. Je sais, Facebook, oui. Donc c'est facile. Ah, vous avez une question? Ok. Ah oui.
Je voudrais savoir une personne qui voit les mêmes.